VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas, déposition du premier témoin à charge aujourd'hui au procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et du chef de milice Charles Blégoudé. Ce témoin a un pseudonyme et on le désigne par le numéro 547. La CPI a rendu son visage flou et déforme sa voix pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Dans le nord du Mali, des centaines de membres d'un groupe armé pro-gouvernemental sont maintenant à Kidal, bastion de l'ex-rébellion, après y être entré sans violence mardi. Les combats entre les milices pro-Bamako de la plateforme et les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA s'étaient poursuivis durant l'été 2015 malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et l'ex-rébellion. Maintenant, la paix semble être revenue dans le nord malien, selon Mohamed Ould Matali, un membre de la plateforme pro-Bamako.
Ce qui est passé à Kidal est que rien que la continuité du processus négocié qui a commencé depuis à Nefis, qui s'est poursuivi à Gelhok, à Khalil, à Tenesako, à Menaka, et la finalité, la conclusion devrait se faire à Kidal. Ce n'est pas les combattants du Gatia, mais c'est les combattants de la plateforme qui doivent être aujourd'hui dans la région de Kidal, dans la ville de Kidal, pour préparer la rencontre définitive qui doit finaliser et conclure l'entente qui s'est passée entre toutes les communautés du Nord. La rencontre doit se tenir à Kidal parce qu'on doit aller bientôt dans un processus transitoire dans toutes les régions du Nord où il y aura la CEMA, il y aura la plateforme, il y aura l'État. Donc ça veut dire que partout aujourd'hui la CEMA doit être présente, partout la plateforme doit être présente, partout l'État doit être présent.
Mohamed Ould Matali, un membre de la plateforme qui regroupe les milices proches du gouvernement malien. Au Bénin, 20 cas suspects de fièvre de Lassa ont été répertoriés par le ministère de la Santé dans le centre du pays, dont 9 décès. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Le premier cas a été signalé le 5 janvier à Saint-Martin de Papané, dans la commune de Tchaourou, au nord de Cotonou. Une unité d'isolement a été mise en place. Des personnes étant entrées en contact avec des malades sont en cours d'enregistrement. Des stocks de ribavirine, le médicament contre cette maladie, ont été acheminés de Cotonou. L'épidémie de fièvre Lassa en cours dans 17 États du Nigeria voisin a déjà fait 84 morts sur 168 cas suspects. Cette maladie peut provoquer de graves atteintes hémorragiques ou neurologiques et se transmet par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade.
Au Burundi, trois grenades ont explosé aujourd'hui à la mi-journée en plein centre-ville de Bujumbura, la capitale. Au moins 8 personnes ont été blessées et les forces de sécurité ont procédé à 2 arrestations, selon la police. Parmi les sites visés, les bureaux de la poste et des télécommunications. Plus de précisions avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Sur l'avenue Patrice Lumumba, au niveau de la poste centrale de Bujumbura, plusieurs policiers militaires armés jusqu'aux dents quadrillent un petit périmètre où une grenade a explosé ce mercredi près de la société des télécommunications Lumitel. Plusieurs curieux sont tenus à l'écart, mais la tension est palpable. Une voiture de marque Hilux vient de transporter 4 blessés par une grenade qui a explosé sur les vitres de la société des télécommunications Lumitel. D'après les témoignages de la police sur place, le ou les malfaiteurs auraient lancé des grenades à partir du bâtiment abritant la société Lumitel, une information a confirmé. Mais au moment où les policiers étaient en train de chercher les criminels, une autre grenade a été lancée à une centaine de mètres plus loin, près du parking des véhicules de transport vers le sud de la capitale, créant une panique au sein de la population. Ces derniers jours, le centre-ville était resté relativement calme, sauf des attaques sporadiques qui ont emporté des vies humaines dans les quartiers dits contestataires. Mais la peur s'est emparée de plusieurs habitants nationaux et ou étrangers à Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et toujours au Burundi, le ministère public a fait appel du verdict rendu dans le procès de la tentative de coup d'État des 13 et 14 mai 2015. Le procureur réclame la condamnation de l'ensemble des 28 accusés, selon un communiqué du parquet burundais. Rappelons que la Cour suprême du Burundi avait condamné le 15 janvier 4 généraux à la prison à vie pour avoir organisé la tentative de putsch, 9 officiers à 30 ans de prison pour y avoir pris part, 8 hommes de troupe à 5 ans et acquitté 7 personnes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, le procès de l'ancien chef de guerre Germain Katanga s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. L'accusé a déjà été condamné à 12 ans de prison à la Cour pénale internationale, une peine déjà purgée, d'où son transfert au pays natal où il devait être relâché le 18 janvier. Mais la justice congolaise l'a gardé en prison après avoir décidé de le juger pour d'autres crimes commis quand il était chef de guerre en RDC. Et toujours concernant la RDC, la chute des cours des matières premières pourrait compromettre le financement des élections, selon le Premier ministre congolais. Des détails avec Eddy Sango.
Augustin Matata Ponyo estime que son gouvernement ne pourra pas financer les élections avec l'argent des ménages si les cours du cuivre tombaient à 2 600 $ la tonne, les barils de pétrole à 10 $ et que toutes les entreprises minières fermées. Il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse soutenant que les prix allaient descendre davantage en 2016 du fait de la contraction de la demande chinoise qui va avoir un impact direct sur les recettes budgétaires du pays. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, avait fait part de l'engagement ferme, irrévocable et sans équivoque du gouvernement à financer la révision du fichier électoral en vue de la présidentielle prévue en 2016. L'opération devrait coûter 1,2 milliard de dollars selon la commission électorale qui a du reste tiré la sonnette d'alarme sur un blocage au plan financier. Malgré la difficulté qui se profile à l'horizon, le premier ministre congolais a affirmé que la RDC continuera à se passer de l'aide du Fonds monétaire international. « Vous n'êtes pas malade et vous voulez voir les féticheurs », a résumé le Premier ministre, fort des performances économiques de son gouvernement, se réalisant sans programme avec les FMI.
En Centrafrique, des soldats musulmans de l'armée centrafricaine réclament plus d'armes et de munitions pour protéger leur communauté dans la capitale en raison de la menace que pose une nouvelle milice locale formée par des musulmans à Bangui. Des habitants du quartier PK5, dernier bastion musulman dans la capitale, eux aussi demandent que les militaires soient mieux équipés. Jacques Aristide.
En dehors de l'arrondissement du PK5, les musulmans sont confrontés aux dangers que représentent les anti-Balaka, groupe majoritairement constitué de chrétiens. Au PK5 sévit encore une milice musulmane, Pale Seleka, qui avait eux renversé le gouvernement il y a 3 ans, mais un autre groupe issu localement et qui a pris le contrôle du quartier. L'un des soldats musulmans a confié à la VOA que son unité ne dispose que d'une poignée de fusils et a été attaqué à maintes reprises par la milice musulmane, lourdement armée et qui est apparemment soutenue par des politiciens. Le militaire ajoute toutefois que la mission des Nations Unies, la MINUSCA, leur vient en aide, d'autant qu'elle a récemment déployé des troupes égyptiennes dans la zone. Les milices et les forces de sécurité semblent observer une trêve en ce moment dans le quartier PK5, mais il s'agit d'un cessez-le-feu fragile et la situation pourrait basculer après le changement de gouvernement qui interviendra au terme des élections prévues durant ce mois de février.
Le chef de la rébellion au Soudan du Sud est en visite aujourd'hui en Égypte. Riek Machar souhaite l'implication du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé au mois d'août. Et pour terminer, actualité américaine, pour la première fois depuis qu'il est président aux États-Unis, Barack Obama va visiter une mosquée sur le territoire américain dans la ville de Baltimore, État du Maryland. Selon la Maison-Blanche, cette visite est dans l'esprit de la protection de la tradition de la liberté religieuse dans le pays. Des précisions avec Miley Segal.
Pendant ses 7 années à la Maison-Blanche, Barack Obama a visité de nombreuses mosquées dans le monde, au Caire, à Istanbul, à Jakarta, mais jamais ici aux États-Unis. Aujourd'hui, pour la première fois, il rencontrera des musulmans américains de la Société islamique de Baltimore. C'est l'une des plus grosses organisations musulmanes du pays. Des milliers de familles sont affiliées à ce centre qui comprend des maisons, une mosquée et des écoles allant du jardin d'enfants au lycée. La visite du président Obama survient alors que le nombre de crimes islamophobes est en hausse aux États-Unis. Attaques contre des mosquées ou injures envers des musulmans. Une étude du CIAR, le Conseil des relations américano-islamiques, a montré que l'année 2015 a enregistré un record de crimes islamophobes. La communauté américaine musulmane est une minorité aux États-Unis. Il y aurait environ 3,3 millions de musulmans, soit 1% de la population.
Et pour terminer, en Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma se dit aujourd'hui prêt à rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Un scandale qui empoisonne sa présidence depuis plus de 2 ans. Chaque fois que le président se rend au Parlement, des députés ne cessent de scander « Rends l'argent, président ». Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.